Je m'appelle Léonore et je viens vous parler de la façon dont la technologie change pour toujours la façon dont vous, dont nous, citoyens du 21e siècle, pouvons vivre en démocratie. Mon premier échec, et le plus gros, est celui de mon implication en politique. Nous sommes en 2006, j'ai 18 ans. Je suis étudiante en première année en sciences politiques. À ce moment-là, le mouvement social autour du contrat première embauche, CPE, appelé par certains contrat poubelle, éclate. Et moi, je me dis, c'est mon moment. Je me voyais déjà en passionnariat à hurler à la liberté sur les barricades ou à déclamer de grands discours sur les bureaux de l'université. Pour la première fois de ma vie, je manifeste. Je manifeste et ça me bouleverse. Voir tous ces gens qui marchent unis vers le même but, je me sens vivante comme jamais. Et pourtant, très vite, je déchante. Je déchante parce qu'en parlant avec les gens autour de moi, je me rends compte que personne ne sait exactement ce que c'est que le contrat première embauche. J'entends même des lycéens qui hurlent « Ah bah le conseiller principal d'éducation !» Ça faisait CPE. Et là, je me dis, est-ce que nous, étudiants en sciences politiques, on n'a pas un rôle à jouer ici? Est-ce qu'on ne pourrait pas décrypter cette loi et l'expliquer aux autres étudiants du campus pour peut-être faire une proposition constructive au gouvernement? Du coup, je me rends à la plus grosse assemblée générale du campus. Vu comme ça, ça ne vous impressionne pas beaucoup. Pour moi, là, au milieu, c'était terrifiant. Malgré ça, je prends mon courage à deux mains. Je me lève. Tous les regards se tournent vers moi, un peu comme maintenant, et je propose mon idée. J'ai bien compté. Sur les plus de 1000 personnes présentes, 32 ont voté pour mon idée. C'est un échec cuisant, donc. Mais cet échec, il sera fondamental. D'abord, personnellement, il m'aura permis de faire le tri entre mes amis. De 1000 personnes potentielles, on tombe à 32. Mais c'est pas tout. À partir de ce moment-là, je garderai en moi cette envie de faire quelque chose pour aider les jeunes, les citoyens en général, à s'impliquer en politique. J'y arrive. Nous sommes en 2012, élection présidentielle française. Comme vous, je reçois par la poste les fameux flyers électoraux. Au design très moderne et souvent un peu tapageur, ces prospectus ne nous disent pas grand-chose. Et pourtant, ils sont censés nous convaincre en quelques points que l'un ou l'une des candidats pourra nous offrir le futur dont nous rêvons. Et pourtant, les programmes électoraux dont on parle pendant les campagnes en permanence, c'est pas ça. Ce sont des piles et des piles de documents qui vont jusque-là. De 60 à 200 pages pour les plus inspirés. Comme je vous ai confié mon secret tout à l'heure, je vais vous demander la même chose. Qui, dans cette salle, levez la main, si vous avez déjà lu un programme politique en entier? Personne ne les lit. Et je ne peux pas vous en vouloir. Ils sont longs, ils sont ennuyeux et ils ne sont pas franchement rendus accessibles. Ce constat, un groupe d'amis qui se réunit pour dîner en janvier 2012 le vit en direct. un débat éclate. Qui, de Nicolas Sarkozy ou de Marine Le Pen, propose ce fameux raccompagnement des immigrés aux frontières? Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les paris tombent, le ton monte de plus en plus, les téléphones portables sont dégainés, on vérifie, ou on tente de vérifier, les propositions véritables. Les moteurs de recherche remontent une tonne d'articles de presse, plus ou moins partisans, mais de sources officielles, aucune. Ah, si, pardon. Une, les programmes. Vous imaginez bien que c'est illisible sur téléphone et déjà que c'est pas très confortable à lire sur un ordinateur. Et là, on s'assoit autour de la table et on se dit, c'est quand même pas normal qu'on ait des mini-ordinateurs très puissants dans nos paumes de main et qu'on n'ait pas accès à une information aussi basique, aussi fondamentale. Quelques jours plus tard, ce groupe d'amis a lancé Vox.org. Qu'est-ce que c'est exactement comme outil? En fait, c'est un comparateur. Comme n'importe quel comparateur, il est très simple d'utilisation. On rentre sur le site, on choisit un pays, une élection, deux candidats, un thème, et on va voir ce qui est proposé exactement par ces candidats sur ce thème. Donc ça, là comme ça, vous le voyez, vous dites « Ah, c'est sympa, un petit gadget !» Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce que ça change? Trois choses. La première, ça démocratise l'accès à une information, jusque-là, au fond des placards. La deuxième, la démocratisation de la production de l'information. Le contenu est entré comme sur Wikipédia. N'importe quel utilisateur peut contribuer en ligne, qu'il soit citoyen, candidat ou journaliste, par exemple. Nous vérifions la source et on publie. La troisième chose fondamentale que ça change, c'est la transparence. Pour une fois, tant les citoyens que les politiques se retrouvent responsabilisés. Quand 1 million de personnes ont vu ce que vous proposiez à la France, c'est quand même pas rien. Ça fait une pression. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, pourquoi? À cause de ce chiffre. 7 sur 10. 7 Français sur 10 pensent que la démocratie ne fonctionne pas très bien. 7 sur 10, dans un pays comme la France, c'est énorme. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le CEVIPOF. Et dans cette étude du CEVIPOF, il y a un autre chiffre encore plus effrayant. 9 Français sur 10 pensent que les politiques ne se préoccupent absolument pas de la vie des citoyens. Et là, vous me direz, mais c'est une cause complètement perdue. Pourquoi elle reste dessus? Parce que figurez-vous que le plus fou dans cette affaire, c'est qu'il y a encore 6 Français sur 10 qui sont des irréductibles et qui continuent à s'intéresser à la chose publique. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on fait pour parler à ces personnes qui sont encore intéressées? Comment est-ce qu'on leur donne à nouveau envie d'y croire? Et comment, surtout, on les aide à changer cette politique? Pour trouver une solution, je me suis replongée dans mon expérience d'étudiante en 2006. Mon problème, à ce moment-là, il était double. Manque d'informations. 2. Manque d'alternative à l'engagement. C'était soit marche dans une manifestation ou tais-toi. Bruit ou silence. Je me dis, peut-être qu'aujourd'hui, en fait, les institutions, elles font déjà des choses dont je n'ai pas connaissance. Du coup, je vais me promener sur le site de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous y allez souvent, mais ça vaut le détour. Donc, je vais sur ce site. C'est un site qui est assez dense, avec une interactivité un peu limitée. Alors, je me promène dessus. Je trouve certes des vidéos qui m'ont permis de visiter tous les couloirs de l'Assemblée, en long, en large, en travers, la boutique, plusieurs fois. Et en cherchant bien, en bas à gauche, je trouve un bouton « Déposer une contribution ». Tout excité, je clique, et voilà ce que je vois. Je ne vais pas vous demander, ici, qui aurait envie de faire quoi que ce soit, pour ne pas me retrouver à nouveau très seule. Mais là, franchement, je vois ça. Silence. Je vous parlais du bruit ? Silence. Donc, là, je me dis, comment ça se fait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les technologies, on est capable, en 24 heures, de mobiliser 2 millions de personnes pour une manifestation sur la place de la République, on est capable, en 48 heures, de récolter 300 000 euros pour aider la Grèce à réduire sa dette. Mais à côté, les institutions continuent à nous parler comme au 19e siècle. Pour réconcilier ça, pour transformer le bruit en propositions concrètes, je crois avoir trouvé au moins un début de solution. J'ai l'honneur de vous présenter, en avant-première, une application sur laquelle on travaille en ce moment. On appelle le Newswatch. En 3 étapes, elle permettra à tous d'avoir un impact sur la politique au quotidien. Première étape, information. Deuxième étape, positionnement. Troisième étape, piste d'engagement concrète. Exemple. Je suis infirmière. Je m'abonne donc au sujet lié à la santé. Une nouvelle loi est à l'étude. Je reçois une alerte. Un décryptage de la loi, une infographie des chiffres du secteur, une cartographie des acteurs impliqués. Qui porte la loi? Quels sont les acteurs qui influencent cette loi? Est-ce que mon député a voté oui ou non? Ensuite, une fois que je suis informée, je me positionne. Pour, contre, ça m'est égal. Si je suis pour ou contre, je vais peut-être vouloir aller plus loin, m'engager. Et là, je vais pouvoir écrire un mail à mon député, me rendre à une manifestation, une réunion publique sur le sujet, signer une pétition en ligne, ou peut-être juste rejoindre une association qui travaille là-dessus. Donc, depuis son smartphone, rien qu'avec le bout de ses doigts, on pourrait réconcilier les élus et les citoyens. Cette application sortira en 2016. Mais d'ici là, je voudrais vous laisser une dernière anecdote. Saviez-vous qu'aux élections régionales de décembre 2015, Paris, Lyon et Marseille vont être privés de vote? Ça vous semble incroyable? Et pourtant, c'est vrai. C'est ce qui arrive à chaque élection en France. En réalité, c'est l'équivalent de la population combinée de ces 3 villes qui n'est pas inscrite sur les listes électorales et qui, de fait, se prive de son droit d'avoir le choix. Donc là, vous vous dites, c'est un peu barbant quand même. Elle nous dit d'aller s'inscrire sur les listes électorales qui sont réouvertes jusqu'au 30 septembre. Mais pourquoi je vous encourage à faire ça? Pourquoi je vous encourage à vérifier que vous êtes bien inscrits, que vos voisins sont bien inscrits, que vos enfants sont bien inscrits? Parce que je pense, je suis convaincue que la meilleure éducation civique, c'est la participation politique active. Et ça commence par les élections, même si certains les jugent imparfaites. J'espère vous avoir donné une vision, un aperçu de ma vision de la politique au XXIe siècle. D'accord. Les citoyens ne vont pas tout de suite sauter de joie en disant « Youpi, je peux enfin écrire à mon député ». D'accord. les politiques ne vont pas tout de suite s'emparer de la vie des citoyens. Mais il y a en France et dans le monde aujourd'hui un espace d'innovation civique actif, composé de membres de la société civile et de politiques eux-mêmes, qui veulent changer la façon dont on vit en démocratie aujourd'hui. Je ne crois pas que la technologie soit la solution à tous nos problèmes. Mais du fond du cœur, je suis sûre qu'elle peut nous aider à guérir cette rupture entre représentants et représentés. Je sais que c'est notre génération qui va être capable de relever ce défi. J'espère juste que cette fois, vous serez un peu plus que 32 à vouloir nous suivre. Merci.